C'est le chapitre 18 de 1 roi. Alors, avant d'aborder ce chapitre, je pense que c'est important pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes, parce que c'est souvent ceux à qui je pense en premier, mais avant d'aborder le récit du chapitre 18, il faut absolument se rappeler de plusieurs choses. D'abord, c'est un récit qui se passe... Bon, 2800, il y a 2800, 3000 ans, quoi, entre 2800 et 3000 ans. Alors, une chose est sûre, c'est que le cœur de l'homme, lui, il n'a pas changé. Hein, on retrouve dans la Bible les mêmes réactions depuis Adam, Noé, etc., jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Le cœur de l'homme n'a pas changé, ça c'est clair. Mais ce qui a quand même changé, c'est la civilisation, surtout la venue de Jésus, hein, déjà, parce que là, on est... presque 1000 ans avant la venue de Jésus. Donc là, la venue de Jésus a changé énormément de choses. J'en parlais une fois avec un directeur d'école. Il disait, qu'est-ce qu'on vivrait aujourd'hui si Jésus n'était pas venu ? Ça vaudrait le coup de se faire l'exercice une fois, mais la venue de Jésus a changé tellement de choses dans nos comportements, nos civilisations, etc. Mais bon, là, donc, c'était avant, 1000 ans avant. Donc la civilisation était différente, les mœurs étaient beaucoup plus violentes, ça c'est clair. Faire grâce à ses ennemis, par exemple, c'était une exception, ce n'était pas la règle. Hein. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La loi était très, très stricte. Et il ne faut pas oublier ça. David, par exemple, vous rappelez quand il a fait grâce au général ennemi, ils n'ont pas compris. Hein. Son propre général, il est allé tuer l'ennemi en vitesse dans un petit coin. Voilà, il y a la grâce et David a été celui qui, dans l'Ancien Testament, a beaucoup exprimé la grâce. C'est pour ça que c'est un précurseur de Jésus. Mais il n'était pas compris quand il était dans la grâce. Alors là, on a dans ce texte l'élimination des faux prophètes. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Alors, ça peut nous sembler, je le dis en préambule, pour que vous ne soyez pas gênés pendant le texte, pendant l'explication du texte, ça peut sembler extrêmement cruel et sauvage. Attraper les prophètes de Baal, puis les emmener au torrent pour les égorger, les tuer. Bon, alors, je mettrai quand même une petite nuance. Qu'est-ce qui fâchait énormément Dieu par rapport aux prophètes de Baal ? Eh bien, c'était, alors je vous cite les chapitres, vous chercherez les versets, Jérémie 7, Ézéchiel 16, Ésaïe 5, il y en a certainement d'autres, qui parlent du meurtre, enfin du sacrifice des enfants. Il ne faut jamais oublier, quand on voit ce texte où Dieu, finalement, est d'accord avec ce sacrifice de tous les prophètes de Baal, l'élimination des prophètes de Baal, 450, c'est beaucoup. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était des gens qui pratiquaient des sacrifices d'enfants. Or, même dans les pays modernes, les sacrifices d'enfants, c'est en général, si la peine de mort y est encore, c'est la peine de mort. Dans les pays qui n'ont plus la peine de mort, c'est l'emprisonnement à vie en général, ou presque. Enfin, surtout quand ce n'est pas un, mais c'est en série. Parce que eux, c'était des tueurs en série, hein. Puisqu'il fallait offrir son premier-né de préférence au pied de la statue de Baal ou de Moloch, suivant les endroits. Et les enfants étaient sacrifiés, brûlés. C'est assez horrible comment les gens pouvaient faire ça, mais c'était le cas. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est qu'aujourd'hui, ces gens-là seraient punis pour infanticide. Et en série. Donc, parce que parfois, je sais que les enfants, surtout, et puis même les adultes, se disent « Oh, mais Dieu, il a autorisé qu'on sacrifie comme ça, qu'on élimine 450 prophètes de Baal. » Ah ah ! Mais Dieu était en colère contre ces gens parce qu'ils tuaient des enfants, entre autres. Il n'y a pas seulement le culte d'une autre divinité, que Dieu évidemment réprouve, mais il y avait aussi le meurtre des enfants qui étaient sacrifiés à l'idole. Alors, gardez ça présent à l'esprit, parce que sinon le texte se semblait un peu dur. Voilà. À l'époque, tout le monde savait que les sacrifices d'enfants faisaient partie des cultes païens. Donc la Bible ne s'étend pas là-dessus, c'était évident. Donc c'est pour ça que je vous ai cité Jérémie 7, Ézéchiel 16, Ésaïe 5, qui parlent de où Dieu est en colère contre les sacrifices d'enfants. D'ailleurs, Jésus a bien dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Il y avait... Les enfants ont une grande place dans la Bible. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les enfants ont une grande place dans la Bible. Je m'étais amusée une fois à passer en revue un peu tous les textes qui parlaient des enfants dans la Bible. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas terminé. C'était tellement, il y en avait tellement que je m'étais arrêtée. Les enfants ont une grande place dans la Bible. Alors, il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, que Jésus a établi une alliance nouvelle avec l'homme, lui en donnant sa vie pour le pardon de nos péchés. Lui s'est sacrifié lui-même. Et ça, ça change tout. Ça fait 2000 ans que Jésus a fait ce sacrifice et ça change tout dans notre façon de voir, dans notre civilisation, etc. D'ailleurs, on s'en aperçoit assez bien parce que les pays de civilisation chrétienne, en général, ont une tendance à prêter plus attention à la vie humaine, à la vie des enfants, etc. Bien que ces choses-là soient en train de changer. Alors, la dernière chose qu'il faut se rappeler quand on étudie un texte de l'Ancien Testament, je sais que je le cite souvent, mais je me répète, c'est un texte important, c'est l'apôtre Paul qui dit à l'église de Corinthe, en parlant des récits de l'Ancien Testament, « Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui peuvent nous parler aujourd'hui encore. Ne devenons pas idolâtres comme certains d'entre eux. Curieux qu'il ait rassemblé les deux. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit, pourquoi c'est rapporté ? Pour nous avertir. Voilà. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord, qu'on attrape les prophètes d'un culte idolâtre et qu'on les égorge. Aujourd'hui, l'apôtre Paul est clair. Ces récits sont là pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas idolâtres et qu'on n'ait pas les mêmes mauvais désirs. Alors, on avait laissé Élie, après la résurrection du fils de la veuve chez qui il logeait, vous vous souvenez. Elle l'avait accueilli à Sarepta et apparemment, il est resté longtemps. Bon, je ne sais pas si ça nous aurait amusé de manger des galettes d'huile et de farine pendant, j'imagine, plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais bon... Ils étaient moins exigeants que nous, on l'est aujourd'hui. À la fin du texte, vous vous souvenez, elle avait reconnu que Élie était vraiment un serviteur de l'Éternel, Dieu d'Israël, et pas les Baals ou les Astartés. Et elle reconnaît que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. Donc c'était un vrai prophète. Voilà, elle avait reconnu ça. Et puis, on prend la suite, donc au chapitre 18. Si on n'a pas tout à fait la même traduction, ce n'est pas très grave. On va prendre les premiers versets, 1 et 2. « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur parvint à Élie la troisième année. Va, parais devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. » Élie s'en alla pour paraître devant Akab. Alors, dans ce texte, on en est à la troisième année de sécheresse, et la pluie est fort attendue. Nous, on attend la pluie, on en a, on n'est pas très content, mais il n'y en a jamais assez. Enfin, bon. Mais on n'en est pas là. Là, c'était la troisième année de sécheresse. Ça devenait de plus en plus grave. Et Dieu parle encore à Élie en lui disant, va rencontrer Akab. Akab, c'est le roi. Et j'enverrai la pluie. Bon, ça, c'est un point important. Tu vas voir Akab et moi, j'envoie la pluie. C'est important parce que c'est vrai que la parole d'Élie était forte. Il annonçait que il y aurait de la sécheresse, et là, on attendait la parole qui annoncerait la pluie. Mais il ne faut jamais oublier que c'est Dieu qui lui donnait cette parole. Ce n'était pas de son cru. C'est important. Et là, Dieu lui dit, va paraître vaincable, j'enverrai de la pluie sur la terre. Bon, ça, c'était une promesse extrêmement importante. Quand même, c'est dangereux. Akab, ça fait un moment qu'il cherche Élie pour lui faire dire la parole qui promet la pluie, mais probablement pour le tuer aussi, parce qu'ils ont déjà tué pas mal de prophètes de l'Éternel. Mais Élie, ce n'est pas Jonas, on a remarqué. Élie, Dieu dit, il fait. Ça, moi, je trouve, il a une confiance en Dieu. Enfin, allez voir Akab, alors qu'Akab avait une dent contre lui, plus qu'une dent. Il avait du courage. Il a une dent. Mais il ne discute pas. Dieu l'a dit, je le fais. Et je me souviens, quand j'étais petite, ma mère avait beaucoup d'admiration à l'époque. Souvent, il y avait des gitans qui venaient dans les églises, que c'était la période où il y avait le réveil des gens du voyage, un très beau réveil avec des miracles, avec toutes sortes de choses. Et maman disait toujours, au moins avec eux, c'est pas compliqué. Dieu l'a dit, je le fais. Voilà. Dieu l'a dit, je le fais. Dieu l'a dit, je le crois. Et ça m'avait impressionnée quand j'étais petite, parce que j'ai vu des miracles, des gens très, très simples qui priaient pour apprendre à lire. Certains ont appris avec une grande facilité. Il y en a même un que j'ai connu qui a prié avec un vraiment intensément et qui a su lire, miraculeusement. Les autres, ils ont travaillé. Mais c'était cette époque où ils avaient tellement soif de lire la Bible. Et le principe, c'était « Dieu l'a dit, je le fais ». C'était impressionnant. Nous, on se pose tellement de questions, hein. Alors, Dieu l'a dit, il y va. Toujours, on remarque la même collaboration avec Dieu. Si seulement, je parle pour moi, pour nous tous, si seulement on pouvait avoir cette collaboration avec Dieu. Dieu l'a dit, je le fais. Dieu l'a dit, je le crois. Ah là là, Élie était quand même un homme de la même nature que nous pourtant, hein. On continue. La famine pressait Samarie. Samarie, donc c'est le nord d'Israël. Acab fit appeler Abdias, l'intendant de la maison. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Lorsque Jézabel, donc la femme d'Acab, massacrait les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes. Il les avait cachés par 50 dans deux grottes. C'est un endroit où il y a beaucoup de grottes, j'ai vu ça. Et les avait nourris de pain et d'eau. Il n'était pas non plus exigeant. Acab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources et tous les ouèdes. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. De sorte que nous pourrons garder en vie les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre les bêtes. Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Acab alla seul par un chemin et Abdias va par un autre. Donc première rencontre, c'est Élie avec Dieu. Deuxième rencontre, Abdias, intendant du roi. Et à notre plus grande surprise, cet Abdias, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. Quelqu'un qui a gardé sa foi dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Waouh ! Il lui fallait du courage à cet Abdias quand même. Parce que c'est là qu'on apprend que Jézabel, elle ne s'était pas embêtée. Vous savez que Acab avait malheureusement épousé une femme qui était la fille d'un prêtre de Baal et qui avait fait venir à la cour du roi d'Israël 450 prophètes de Baal et autant de prophètes, ou 400 je crois, de Astarté. Donc ça fait du personnel ça. Fallait vraiment qu'elle en ait envie. Et elle avait envie d'éliminer les prophètes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est quand même fort, hein. Elle est là, non pas comme une enfant du pays, mais elle est là, elle vient d'un pays idolâtre. C'est le long de la côte, là, la Phénicie. Et non seulement elle installe le culte de ses idoles, mais en plus, elle a envie de tuer les prophètes. Et elle le fait, hein. Et du coup, Abdias, qui lui garde sa foi, sans doute discrètement, mais sûrement, il va cacher les prophètes pour qu'ils aient la vie sauve. Sans, dans deux grottes, il les nourrit de pain et d'eau. En période de sécheresse, je ne sais pas si c'était miraculeux, mais en tout cas, ça ne devait pas être simple. Donc c'est un homme de foi, c'est un homme de courage. Et c'est bien qu'on comprend pourquoi Élie s'est adressé à lui, hein. Et puis, on assiste là à une petite entrevue entre Acab et Abdias, le roi et son intendant. Alors là, moi, j'ai eu le choc. Abdias, à ce propos, son nom signifie serviteur de Yahvé. Alors, Acab, il convoque son intendant. Bah, en période de sécheresse, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il est en souci, Acab. Lui, c'est un Israélite. Il connaît la loi, il a été élevé dans un contexte religieux, juif, pratiquant. Il est en souci parce qu'il y a de la sécheresse. Et il y a de la famine, donc. Et alors, il est en souci pour son... Ah non, pas son peuple. Il est en souci pour ses chevaux et ses mulets. Ben tiens, après 3 ans de sécheresse, qu'est-ce qui le préoccupe? Que les gens meurent, que les gens n'aient plus à manger? Ça, c'est du détail, mais les chevaux et les mulets, ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, ça m'a surpris quand même, je dis il exagère celui-là, quand on voit que la veuve de Sarepta, elle pensait faire son dernier repas si Élie n'était pas venu chez elle. Ben lui, il n'en est pas là, il cherche de l'herbe et de l'eau, ça on peut comprendre, de sorte que nous pourrons garder en vie les chevaux et les mulets. Mais voyons, et pourquoi les chevaux et les mulets? C'était pas complètement idiot. C'est parce que bon, c'était les armes de guerre, hein. Quand on faisait la guerre, il fallait avoir des chevaux, etc. Mais quand même, quand même. Et comme ça, on n'aura pas besoin de les abattre, les pauvres bêtes. Akab est vraiment pas dans le souci de son peuple. Rien, pas un mot sur le peuple. Mais juste les chevaux et les mulets. Abdias ne dit rien, il est prêt à aller regarder si on trouve de l'herbe. Alors, d'après ce que j'ai lu, dans les périodes de sécheresse, il y a certains versants des collines qui étaient un peu plus humides. On n'était pas trop loin de la mer. Donc bon, les vents pouvaient apporter un petit peu d'humidité et quelquefois il y avait un peu d'herbe qui pouvait pousser à certains endroits. Mais quand même, ils parcourent le pays, chacun de leur côté. Évidemment, Dieu avait tout prévu parce que comme Abdias était en chemin, il va pouvoir rencontrer Élie. Ça va bien aider Élie, parce que aller au palais voir Akab comme ça, c'était pas forcément évident. Comme Abdias était en chemin, Élie vint à sa rencontre. Ah, Abdias le reconnut, tomba face contre terre et dit, « Est-ce bien toi, mon serviteur Élie ?»« Mon seigneur Élie. » Il lui répondit, « C'est moi, va dire à ton seigneur. » Là, j'aime bien le... Monseigneur Élie, et puis Élie qui lui dit, va dire à ton seigneur, ton maître. C'est intéressant, parce que le pauvre Abdias, il était pris entre deux maîtres. Et va dire à ton seigneur, j'ai trouvé Élie. Alors Abdias, là, il n'en peut plus, là. Trop c'est trop, il est déjà sous tension depuis un bon moment, il a caché des prophètes, il doit un peu, sans doute, ne pas trop parler de sa foi au palais. Alors Abdias, il éclate. « Quel péché ai-je commis, moi, ton serviteur, pour que tu me livres à Akab et qu'il me fasse mettre à mort ?» C'en était arrivé là, vous vous rendez compte. « Par la vie du Seigneur ton Dieu, il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur Akab ne t'ait envoyé chercher. » Autrement dit, Akab, il a cherché Élie, il voulait lui faire dire la parole qui amènerait la pluie, bien sûr, puisqu'Élie avait dit « Il n'y a que sur ma parole que la pluie reviendra. » Il a cherché partout où il était Élie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, Dieu l'avait caché, Élie. Quand il était près du torrent, quand il était chez la veuve de Sarepta, Dieu l'avait envoyé dans des endroits où personne ne pouvait penser à le chercher. Chez une pauvre veuve qui était sur le point de mourir, bon, le roi, il n'a pas cherché là. Et puis au bord du torrent, ben, il n'a pas cherché non plus. Et Dieu avait envoyé son serviteur dans des endroits où il pouvait être en sécurité. Ça m'a beaucoup touchée. Dieu pense à la sécurité de ses serviteurs. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au royaume ou à la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Donc non seulement il cherchait, mais en plus quand il tombait sur les gens, il leur disait « Bon, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vu, vous allez me le jurer par serment. » Et maintenant, toi, tu dis « Va dire à ton seigneur, j'ai trouvé Élie. » Là, Abdias, il craque, quoi. Il dit, non, mais tu te rends compte? Tu ne te rends pas compte du contexte, là? Il t'a fait chercher partout, il fait jurer les gens pour qu'ils disent la vérité, et puis, voilà, maintenant, tu m'envoies dire à Akab, coucou, il y a Élie. Il dit, non, là, c'est pas sérieux. Et puis, alors là, j'aime bien l'humour. Puis, lorsque je t'aurai quitté, alors maintenant, on est ensemble, mais tout à l'heure, je vais te quitter. Le souffle du Seigneur t'emportera je ne sais où. L'Esprit du Seigneur t'emportera n'importe où. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, parce que Élie, il faisait exactement ce que le Seigneur lui demandait. Alors, si le Seigneur le disait d'aller à droite, à gauche, voilà, on avait l'impression que le Seigneur l'enlevait, puis il allait à droite, à gauche. Il suivait scrupuleusement ce que le Seigneur voulait. Et Abdias le comprenait bien. Mais c'est bien joli ça, mais quand je vais revenir, si le Seigneur t'a emmené ailleurs, moi je suis fichue là. Élie, tu sais que moi c'est la fin de ma vie là. Akab, il ne va pas marcher. Le souffle du Seigneur t'emportera je ne sais où. Alors j'irai faire mon rapport à Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Vous voyez, la civilisation était quand même. Hein. Bon, on tue le messager si on s'aperçoit que c'est pas ça. Pourtant, je crains le Seigneur depuis ma jeunesse. Ne t'a-t-on pas rapporté, mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? J'ai caché 100 prophètes par 50 dans 2 grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et dans la Bible, vous savez, quand il y a des répétitions comme ça, il y a une insistance sur la fidélité de cet Abdias. 2 fois, on raconte son histoire. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, j'ai trouvé Élie. En quelque sorte, lui, il discute, il dit, non, mais c'est bien gentil ce que tu me proposes, mais moi, je risque ma vie dans cette histoire-là, alors que moi, j'ai protégé la vie d'une centaine de prophètes. Et il me tuera. Maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, j'ai trouvé Élie, et il me tuera. Mais Élie, là, est obligé de faire un serment par la vie du Seigneur, l'Éternel des armées, au service duquel je me tiens aujourd'hui. Je paraîtrai devant Achab. Ah, là, il lui promet, et là, on sait que sa parole est sûre. C'est Dieu qui l'a dit, par la vie du Seigneur. Il sait que c'est au nom du Seigneur qu'il parle. Il va effectivement venir devant Achab. Là aussi, Élie a du courage, beaucoup de courage. C'est important de se rendre compte que c'était un homme d'un grand courage. Pour l'étude de la prochaine fois, c'est important de se rappeler de ça. Un homme qui avait beaucoup de courage. Il va paraître devant Achab. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, Abdias voulait être sûr qu'Élie prononce la parole de Dieu. Mais il n'avait pas compris, et ça c'est important à le retenir aussi, que seule la repentance du roi et du peuple pouvait changer le cours des choses par rapport à la sécheresse. Achab, il ne comprenait rien du tout. Pour lui, alors, il va changer un tout petit peu, mais in extremis, mais ça ne sera pas durable. C'est seulement la repentance qui pouvait ramener la pluie. On en avait déjà parlé. La sécheresse était la conséquence de l'idolâtrie du peuple. L'idolâtrie produit la stérilité, la sécheresse. C'est jamais la prospérité qui suit l'idolâtrie. Et chaque fois qu'on idolâtre quelque chose dans notre propre vie, la conséquence, c'est une sécheresse, c'est une stérilité. Dans plein de domaines. Et ça, c'est important de s'en souvenir. C'est jamais une bénédiction. Même s'il y a des avantages immédiats, à long terme en tout cas, c'est pas bon. Ça produit la stérilité. Et c'était pourtant la seule parole magique. C'était la repentance. C'était pas « il va pleuvoir ». Il attendait ça, hein, Achab. Mais c'était pas ça, la parole qu'il fallait. La parole, elle venait du roi et du peuple. On se repent, on retourne vers l'Éternel. Et on apprend là aussi qu'Achab, il est prêt à tuer n'importe qui donnerait une fausse info sur Élie. N'importe qui. Mais bon, après le serment, Abdias accepte de porter le message. Donc Élie va maintenant être face à Achab. Donc Élie a d'abord été face à Dieu, puis face à Abdias, et maintenant il va être face au roi Achab. C'est curieux, il y a ces rendez-vous successifs. Alors, ce qui me surprend dans ce texte, c'est le verset 16. Je ne sais pas s'il est là, on va le prendre maintenant. Voilà. Abdias alla à la rencontre d'Achab et l'informa de la situation. Et là, c'est curieux, c'est Achab parti alors à la rencontre d'Élie. Dans ma version, j'ai aussi Achab se rendit à la rencontre d'Élie. Non, mais dites, ça ne se fait pas, hein. C'est pas au roi d'aller voir les gens, c'est aux gens de se rendre près du roi, normalement, même à cette époque. Donc il avait quand même un certain respect, une certaine crainte d'Élie et du Seigneur. C'est lui qui va se rendre à la rencontre d'Élie. Par contre, vous allez voir, lorsqu'il aperçut Élie, Achab lui dit, « Est-ce toi qui attires le malheur sur Israël ?» Ou la traduction ici dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. » Ou bien ma version, je préfère, dit, « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Alors en période de sécheresse, la reine n'avait... Alors, Achab était soucieux de ses chevaux et de ses mulets. Et puis, Jézabel, elle, nourrissait 850 personnes à sa table. C'est-à-dire, quand on dit manger à la table à cette époque, ça veut dire entretenir. Donc financièrement, la nourriture, etc. Non, mais en pleine sécheresse, quand le peuple est en train de crever de faim, elle ne se gêne pas, mais elle est idolâtre. C'est le principe de l'idolâtrie. On ne se soucie pas des gens, on se soucie de notre idolâtrie. Et du coup, 850 personnes qui mangent à sa table, qui sont entretenues par la reine, alors que la pauvre veuve de Sarepta, elle ne savait pas si c'était son dernier repas. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est terrible. Alors, la salutation d'Akab, elle est intéressante. Hein. Non seulement il ne se remet pas en question, Akab, mais là, il donne le fond de sa pensée. Il refuse de comprendre que la racine des malheurs du peuple, c'est pas Élie, mais c'est l'idolâtrie de l'ensemble du peuple, de la reine évidemment, mais il n'y a pas que. Hein. C'est l'idolâtrie de l'ensemble du peuple. Et Élie a beaucoup de courage. Là, il risque sa vie. Hein, quand il lui dit... non, là, je préfère revenir un petit peu en arrière. Quand il lui dit, c'est toi et ta famille. Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, au contraire, c'est toi et la maison de ton père. De ton père, parce que son père était déjà idolâtre, Omri. Alors ça, il a du courage. Vous savez, c'est important de s'en rappeler, parce qu'on va voir dans l'épisode suivant, il a son coup de déprime, parce qu'il est humain. Mais là, il est vraiment animé par l'Esprit de Dieu, il est courageux. Donc, il remet les choses en place. Curieusement, Akab ne répond pas. C'est intéressant. Et on va s'apercevoir qu'Akab, j'en parlais récemment avec un pasteur en visite, Akab, c'est le gars qui est très influençable et qui va pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et là, devant Élie, il ne sait pas qu'il perd ses moyens, mais bon, il attaque, puis après, il ne bouge plus, il ne dit plus rien. Et ça, c'est Akab. Akab, bah justement, il ne brille pas par son courage, il est influençable. Je sais que certains commentateurs le traitent de caméléon, il prend la couleur ambiante. C'est dommage, on a un peu pitié de lui parce qu'il se laisse faire, quoi. Voilà. Et la racine du problème, c'est bien l'idolâtrie. Il le reprécise, Akab ne dit rien et il donne des ordres après. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi au Mont Carmel, avec les prophètes. Curieusement, c'est lui qui donne les ordres. Il a le roi en face de lui. Vous voyez comment les choses sont inversées? Le roi vient à sa rencontre, il proteste un petit peu, puis auprès, il ne dit plus rien, et puis il se laisse faire, il va obéir. Tu fais ça, tu vas à tel endroit, c'est le Mont Carmel, et tu emmènes les prophètes. Bouge pas. Ça, c'est Akab, malheureusement. Alors, l'accusation d'Akab m'a fait penser... Vous voyez, dès qu'il le voit, il dit « Est-ce toi qui jette le trouble ou est-ce toi qui attire le malheur ?» Ça m'a fait penser à beaucoup de récits de missionnaires. Celui que j'ai en tête, c'est en Chine, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres pays, où quand il y avait, par exemple, un problème sur les récoltes, on accusait les chrétiens, les missionnaires ou les gens qui s'étaient convertis à la foi chrétienne. Parce que finalement, ils pensaient très sincèrement que puisque ils adoraient un autre Dieu, d'un autre pays aussi, forcément, la bénédiction des récoltes, etc., ne peut pas être accordée par leur Dieu à eux. Alors, je me souviens vaguement, je voulais vérifier cette petite histoire, mais les grandes lignes, ce sont des missionnaires en Chine. J'ai traduit leur biographie il y a des années. Et c'est un livre très, très intéressant parce que c'est une série de miracles formidables. Et ils avaient eu leur chant, ils avaient un chant à côté des autres chants du village. Et pour avoir la bénédiction des dieux, il fallait mettre, je crois, des petits drapeaux d'une certaine couleur autour de son chant pour les protéger, etc. Et eux, étant chrétiens, évidemment, n'avaient pas mis les petits drapeaux. Et ça a failli mal tourner, ils ont failli être attaqués, ils ont été vraiment, les gens étaient en colère après eux. À cause de vous, on va avoir des mauvaises récoltes, et à cause de vous, etc. Et ils ont maintenu, par la foi, et ils ont prié pour les gens du village. C'était un peu risqué. C'était en début 20e siècle, hein, c'était assez sauvage encore. Et ce qui s'est passé, c'est que le temps a été mauvais, et du coup, ben, les gens étaient encore plus furieux. Et le champ qui a rapporté le plus de récoltes, c'était le champ des chrétiens. Et là, il y a eu un retournement de situation. Et les gens sont allés vers eux en disant, mais comment il est puissant comme ça, votre Dieu ? Le nôtre, il n'a pas été capable de nous protéger. Pourtant, on a mis les petits drapeaux, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et voilà, mais il fallait du courage. Il fallait du courage. Mais la première chose, souvent, c'est d'accuser les chrétiens. C'est vous qui jetez le trouble, c'est de votre faute, etc., etc. Et ça, beaucoup de missionnaires pourront en témoigner. C'est une histoire parmi tant d'autres. Alors, c'était facile d'accuser Élie. J'ai réfléchi un petit peu. Je ne sais pas comment nous, on aurait vécu à cette époque-là. Mais Élie, il était franchement atypique. Franchement atypique. Ce bonhomme qui se promenait, habillé extrêmement bizarrement, même pour l'époque, avec des peaux de bête. Et il y a un texte, je ne l'ai pas ici, mais on le verra plus loin, où Akab demande à quelqu'un, avez-vous rencontré Élie ? Et il dit, bah oui, c'est un... Et alors, il décrit son habillement, et, qui vit dans le désert, et qui est tout avec sa peau de bête, etc. Un peu comme Jean-Baptiste. Et c'était facile d'accuser quelqu'un d'aussi atypique. Il n'est pas normal, ce gars-là, ça se voit. Il est bizarre. Et c'est vrai qu'en plus, moi je trouve, hein, pour notre époque en tout cas, mais même peut-être pour cette époque déjà, il était brut de décoffrage, hein, quand il parlait. Il ne mettait pas les formes, hein, même au roi. Hein. Maintenant, fais rassembler tout Israël, etc. C'est pas moi qui attire le malheur, c'est toi et ta maison. Il n'y allait pas par quatre chemins. Et je pense que moi, ça ne devait pas plaire. Hein. Il ne se fondait pas dans la masse. Et surtout, ce qui motivait Élie, c'est qu'il ne supportait pas que son peuple se détourne de l'Éternel. Il ne supportait pas. Et d'ailleurs, sa réponse ne se fait pas attendre. C'est pas moi, c'est toi. Il ne s'est pas laissé faire. Parce que pour lui, c'était triste. Et c'était pas, je ne pense pas que c'était dans un esprit de vengeance ou de colère. C'est vraiment, il souffrait de voir son peuple qui adore des idoles, faite de bois, de pierre. Alors, regardez tous ces textes des prophètes. Ils sont très drôles, d'ailleurs. Hein. Alors là, il explique, je crois que c'est dans Isaïe, là, je ne l'ai pas noté, où vraiment, Dieu explique, « Oui, ben c'est ça, vous trouvez un morceau de bois, et puis vous le taillez, et puis vous jetez les débris au feu, vous faites votre cuisine dessus, et puis vous vous prosternez devant ce morceau de bois taillé, vous lui demandez des choses. » Voilà, bien sûr. Et on sent que Dieu, au travers de son prophète, bah, il se moque un peu, mais enfin, avez-vous quand même votre raison pour vous prosterner devant un bout de bois que vous avez taillé vous-même, vous avez mis les petits morceaux de ce que vous avez sculpté au feu, vous avez fait votre cuisine sur ce feu-là, mais enfin bon, ça suffit. Il y a beaucoup de textes comme ça chez les prophètes, et à chaque fois, il y a un petit sourire. C'est pour ça que je dis toujours que Dieu a de l'humour. On sent le petit sourire en coin. Non, mais enfin, les enfants, c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Alors. Donc, Élie fait convoquer le peuple avec les 450 prophètes de Baal, ainsi que ceux d'Astarté. Alors, on ne comprend pas, c'est que dans le texte qui suit, on n'en parle plus des prophètes d'Astarté. Est-ce que Jézabel les a empêchés d'y aller ? Est-ce qu'elle s'est doutée de quelque chose ? Est-ce que c'était ses favoris ? On ne sait pas, mais en tout cas, ils n'étaient pas là. Donc, c'est surtout ceux de Baal dont on va s'occuper dans ce texte. Je sais, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, Akab, il est conscient que la parole qui annonce la sécheresse viendra par Élie. Est-ce qu'il a réfléchi au fait que Baal n'a rien pu faire contre la parole du Dieu d'Israël ? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il se tait ? Il dit, ben oui, pendant 3 ans, Baal, il n'a rien fait. Comme on a dit, il était influençable. Est-ce qu'il s'est demandé, peut-être qu'Élie a raison ? Qui sait ? Et puis après tout, il doit se dire, il n'y a pas de risque. Hein. Un prophète, en plus bizarroïde, contre 450 prophètes de Baal, pas de souci, pas de danger. Pourvu que la pluie tombe, c'est tout ce qu'il demandait. Alors, on va continuer, versets 20 à 29. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites. Vous voyez, il fait le boulot, hein. Rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors, le mont Carmel, si j'ai bien compris, c'est une petite montagne qui domine la ville de Haïfa aujourd'hui, si vous voulez regarder sur une carte. Voilà. Élie s'approcha de tout le peuple et dit : jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne répondit rien. Et ça fait mal, hein. Le peuple ne répondit rien. Et pourtant, il a mis le doigt sur le problème. Alors ma traduction dit : jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. Le peuple ne répondit rien. Et là, je crois que c'est la question, c'était la question de l'époque, mais c'est la question pour nous aujourd'hui. C'est toujours la même question. Où c'est Dieu qui est Dieu ? Et si on croit vraiment que Dieu est Dieu, alors on y va. On le suit. On l'aime, on le sert. Ou alors, c'est mon idole. Mon temps, mon argent, mon travail, mes enfants, ma famille, mes jeux, enfin, on peut imaginer à l'infini, hein, les idoles modernes. Ou alors on croit que c'est les idoles. Auquel cas, on les suit, puis on y va à fond. Mais le problème du cœur de l'homme, et c'est là qu'on voit que le cœur de l'homme n'a pas bougé, hein, c'est qu'on voudrait les deux. C'est pour ça que le peuple ne répond pas. Rappelez-vous, Josué qui avait dit, alors j'ai dû mettre le verset quelque part, Josué s'est tourné vers le peuple en disant « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ah, c'est problématique ça. C'est qu'en fait, on n'a pas envie de choisir. Quand on est jeune, on n'a pas envie de choisir parce qu'on se dit « Bon, c'est pas si mal que ça, il faut bien profiter un peu de la vie, nanana. » Quand on est plus âgé, « Oh ben on est fatigué, le boulot, tout ça, la famille. » Bon, voilà, faut quand même se donner un espace de liberté, de détente, suivant ce qu'on suit, quoi. Et puis, bah, quand on est plus âgé, maintenant, hein, j'ai fait ma vie, et puis voilà, choisir comme ça. C'est bon, on peut garder les deux, la preuve, hein, je fais ça toute ma vie. Mais la vie chrétienne, et ça, je le dis tout le temps aux adolescents, la vie chrétienne n'est pas intéressante si on la fait à moitié. C'est le genre de vie qui est déplorable quand on la fait à moitié. Alors d'abord, on passe pour des tartuffes, des hypocrites, tous ceux qui ont étudié Tartuffe voient ce que je veux dire. On passe pour des gens religieux, on passe pour voilà, faire les choses à moitié, c'est-à-dire garder les rites, aller à l'église le dimanche, faire ceci, suivre les fêtes, etc. Ah oui, parce que je suis chrétien, etc. Ça devient légaliste, ça devient religieux, c'est casse-pied au possible et ça ne vous apporte pas grand-chose. Par contre, suivre à fond le Seigneur, là, ça vaut le coup. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles, mais faire quelque chose à fond déjà, vous le savez bien dans la vie, faire quelque chose à fond, c'est quand même plus agréable que de le faire à moitié. Si vous décidez de peindre un tableau, hein, on dira, oh là, Marie-France, ça fait des jolis tableaux, moi, je vais essayer aussi, ouais. Et puis je fais, oh, puis au bout d'un moment, j'en ai marre, je fais n'importe quoi, ben, ça ne rendra pas. Si je le fais, je le fais à fond. Et la vie chrétienne, c'est le type même de choses qu'il faut faire à fond. Il faut être dedans, sinon c'est horrible. Ça devient un poids, ça devient un fardeau, ça devient quelque chose que je porte avec moi. Oh, moi, je suis chrétien. Je me souviens, pendant le réveil, le pasteur qui a amené le réveil en France, en tout cas, Pierre Nicole, disait toujours dans mon église, quand j'étais petite, un chrétien triste est un triste chrétien. Si on est triste, si on prend sa vie chrétienne comme un poids, comme un fardeau, c'est pas possible, c'est pas une vie. Moi, les gens que j'ai rencontrés et qui étaient les plus heureux, ben, c'est ceux qui y vont à fond. Je sais pas si vous avez observé Aurel Vidal. Un peu atypique, hein, aller dans les rues comme ça pour évangéliser, etc. Mais ça lui apporte une joie, un enthousiasme. Et c'est important. Et vous êtes jeune, vous pouvez choisir. Soit faire les choses religieusement, un peu pour le Seigneur, un peu pour mes idoles, hein, tout ce que j'aime, qui passe en premier. Pff, faites pas ça. Allez-y à fond. Allez-y à fond. Moi, les jeunes que j'ai connus quand j'étais étudiante, tous ceux qui marchaient vraiment dans la joie et dans le dynamisme, c'était ceux qui étaient à fond. Et plus ils étaient à fond, plus ils étaient heureux. Alors, ce n'était pas béatement heureux, hein. Il y avait des moments un peu plus difficiles. Hein. Ce n'est pas évident. Moi, je me souviens, quand on a fait le stand à Sancier, on s'est fait taper dessus. Ça n'a pas été évident. Les bibles déchirées, les tables renversées, c'était des moments où on tremble beaucoup. Hein. Mais bon, on était à fond. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas ces moments-là. Il y a plusieurs jeunes qui sont venus au Seigneur, qui sont aujourd'hui chrétiens, qui ont grandi dans différentes églises de Paris. Merci Seigneur. Au moins, j'ai la joie d'avoir fait ce que Dieu me demandait. Et ça, c'est une joie. Allez-y à fond. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Allez-y à fond. Il vous a donné des talents. Utilisez-les à fond. Et je dis ça aux jeunes, parce que je pense toujours aux jeunes en premier, mais c'est vrai pour chacun de nous. Il n'y a pas d'âge pour dire « maintenant, j'y vais à fond. Maintenant, je choisis qui je veux servir. » Avant mes loisirs, avant mes plaisirs, avant mes... etc. Ceci étant, Dieu nous donne des temps de repos, des temps de loisirs, etc. N'allez pas imaginer que c'est une vie monastique. Pas du tout. Dieu nous donne des belles choses. Et plus on le sert, plus on y va à fond, plus il nous donne des sujets de joie. Bien sûr, il y a des sujets de tristesse, il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça pèse un peu, hein. On est humain. Vous allez le voir, hein, la suite de Élie. Quand il est bien déprimé, là. Mais bon, vous avez vu, après, il y aura une autre suite pour Élie. Mais voilà, ça, il y a des moments difficiles, mais ça vaut le coup. Vous savez, les gens qui s'impliquent dans des causes, déjà dans le monde, je pense aux grands médecins, aux grands qui s'impliquent à fond, pour, ils ont une certaine joie. Déjà dans le monde, ça existe, parce qu'ils font les choses de tout leur cœur. Mais faire les choses à moitié... ce n'est pas une solution. Et les chrétiens à moitié, c'est triste. C'est triste. Parce qu'ils ne sont jamais complètement heureux, jamais complètement déculpabilisés. Vas-y, ils sont toujours entre deux. Et ce n'est pas une solution de vie. Et je crois que là, c'est le problème de l'Église aujourd'hui aussi. Parce qu'on vit dans une société confortable. Vous savez, autrefois, quand tous les gens ne savaient pas comment ils finiraient le mois, s'ils auraient assez à manger... c'est pas besoin de remonter très loin, hein. Je lisais un peu ce qui se passait en 1800 et quelques là, quand il y a eu la commune, etc. Beaucoup de souffrances, etc. Là, les gens cherchaient Dieu. Mais maintenant, on a un tel confort qu'on peut se débrouiller sans Dieu. Ah d'ailleurs, il faudra que je vous affiche ici, c'est le, je sais pas si vous connaissez le l'humoriste et Sampé. Il fait des dessins un petit peu simples, mais avec des grandes foules. Et j'ai trouvé un dessin qui m'a beaucoup parlé. On voit une dame qui arrive dans une église, une grande cathédrale. Elle, petite dame comme ça, si vous connaissez le dessin de Sampé, je vais l'afficher là parce qu'il est magnifique. Elle se présente et elle dit « Oh mon Dieu, quand je doutais de moi, vous m'avez permis de reprendre confiance en moi. Et maintenant que j'ai confiance en moi, je doute de vous. » C'est un peu la vie chrétienne. Hein ? Dieu nous redonne. On vient vers le Seigneur. Dieu nous redonne confiance en nous. Dieu nous redonne tout un tas de choses. Sécurité, une joie, une paix, le pardon de nos péchés, etc. Et une fois qu'on a ça, en bon chrétien, bah, oh oui, peut-être que faut pas être fanatique. Voilà, faut pas être fanatique. Pas être fanatique. Tu peux de tout un peu. Hein, c'est la philosophie actuelle. Il y a du mal dans le bien et du bien dans le mal. Et on noie tout ça dans une sorte de marécage. Non. Autrefois, on parlait des hommes de conviction. Dieu appelle les chrétiens à être des gens de conviction. Les vieux, les jeunes, les gens mûrs, etc. Dieu nous appelle à être des gens de conviction. Et c'est très gratifiant, honnêtement, d'avoir des convictions. En restant tolérant pour ceux qui n'en ont pas, malgré tout. Israël voulait bénéficier de l'aide de l'Éternel et de celle de Baal. Il sacrifiait tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Il penche pour les séductions du culte de Baal. Ah oui, parce qu'il y avait des festins, des danses après, etc. Ils ne veulent pas non plus rompre avec le culte de Yahvé, l'éternel Dieu. Et Élie, il est douloureux là. Il veut les faire choisir. Ah oui, voilà, c'était le chapitre 24 de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et à l'époque, le peuple avait répondu, jamais nous n'abandonnerons le Seigneur pour servir d'autres dieux. Ah oui, mais c'était une autre époque. Hein. Ça fait pas si longtemps qu'ils étaient sortis d'Égypte. Hein. Par contre, cette fois-ci, le peuple ne lui répondit pas parce que il était courant à cette époque-là d'avoir plusieurs dieux. Choisir, c'était difficile. Ça exclut d'autres possibilités. Choisir, c'est s'engager dans une voie. C'était difficile il y a 3000 ans, mais c'est toujours aussi difficile aujourd'hui. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Il ne faut pas être fanatique, tous les chemins mènent à Rome. Il faut éviter les exclusions, ça c'est le truc moderne. Hein. Vive la tolérance. La Bible dit ça, mais moi je pense. Aujourd'hui, le syncrétisme est à la mode, on mélange tout. C'est ça, avoir l'esprit large. Mais si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Le peuple, lui, n'a pas envie de répondre. Par contre, au temps de Josué, il répondait. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu ? Le peuple ne répondit rien. Eh bien, l'Égypte, c'est loin derrière. C'est pour ça que quand on est chrétien depuis 10, 15, 20 ans, c'est plus compliqué, hein ? C'est plus compliqué. L'Égypte, c'est loin derrière. Le passage du Jourdain à sec, c'est loin derrière. La chute de Jéricho, oh là là ! Tous ces miracles-là, ils sont derrière, ils sont loin. Oh, c'était bon pour mes parents ou mes grands-parents. Alors là, c'est dur pour les enfants de chrétiens. Oui, oui, mes grands-parents, oh là là, mes parents, mes arrière-grands-parents pour certains. Mais non, c'est toujours vrai aujourd'hui. Les nouvelles générations ne se battent plus contre les Cananéens. C'est ça le problème de Élie. Ils font du commerce avec eux, ils font des fêtes avec eux. Gédéon, Déborah, David et Goliath. Il y a plus de 100 ans, David et Goliath. Il y a plus de 100 ans, là, dans cette histoire. Ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas d'expérience personnelle. Où est leur Goliath ? Ils ont fait du commerce, ils ont fait des fêtes avec les adorateurs de Baal. Où est leur Goliath ? Ils l'ont apprivoisé, Goliath. Ils sont allés danser avec lui. C'est ça, le problème. Et Jésus disait, Jean 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc 16 dit, « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon était le dieu de l'argent. Bon, dans notre civilisation aujourd'hui, il existe toujours, même s'il n'a pas le même nom. Élie insiste sur le fait qu'il est seul face au prophète de Baal. Mais Dieu un jour lui dira qu'il y a d'autres fidèles. Alors, il va donner le modus operandi. Hein. Chaque camp choisit un taureau, on le découpe, on le met sur le bois sans y mettre le feu. Chaque camp va invoquer le nom de son Dieu. Celui qui répondra sera, par le feu sera Dieu. Et là, le peuple répond, il veut bien répondre là. Il dit d'accord. Le peuple qui a oublié le passé glorieux de ses ancêtres, il a besoin d'un signe. Et je crois que c'est un peu vrai pour tous les enfants de chrétiens, même si vous avez 50 ans, 60 ans, si vos parents étaient chrétiens, vos grands-parents étaient chrétiens. Alors raison de plus quand on est jeune et que les grands-parents, les parents sont chrétiens. On a besoin d'un signe. Et c'est quoi ? Alors c'est pas le feu du ciel qui descend sur votre maison, je vous le recommande pas de demander ça. Mais quelque chose, une expérience personnelle avec Dieu. On en a besoin, parce qu'on est humain, et imaginez que Dieu le comprend. Moi, Dieu, il n'est pas dur et les oreilles fermées. Se dit cette jeune génération, elle a besoin d'un signe, elle a besoin de vivre quelque chose, alors demandez-le à Dieu. Moi, je ne sais pas quel est le signe qui va vous parler. Alors, bon, on ne sait pas des trucs du genre, si je vois un papillon jaune, ça ira bien, et si je vois un papillon brun, ça... Non, des choses sérieuses. Mais vous avez besoin d'une proximité avec Dieu. Et ça, Dieu le comprend, il est d'accord, il est prêt à se révéler à vous. Croyez-moi, il le fera. Si vous êtes prêt à vivre à fond avec lui, ah, vous allez être gâtés. Là, vous aurez les expériences et les signes. Croyez-moi. J'étais prête à vivre à fond avec Dieu et j'ai eu les expériences qui m'ont permis de dire, il est vivant aujourd'hui, il est vrai, ça vaut le coup de l'adorer, ça vaut le coup de souffrir pour lui dans les moments difficiles. Il vous faut un signe, il vous faut quelque chose. Eh bien, demandez-le à Dieu. Truc sérieux, hein, je dis bien. Et ça fait penser à cet étudiant d'école biblique qui, toutes les semaines, le samedi, le dimanche, au culte de l'école biblique, disait: Merci Seigneur, tu as répondu à mes prières, j'ai reçu l'argent dont j'avais besoin, etc. Tous les dimanches, on y avait droit. Alors qu'un jour, le pasteur est venu le voir et dit: Mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait, ses parents ou ses grands-parents s'étaient engagés à lui envoyer toutes les semaines. Et il faisait passer ça pour un signe de Dieu. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. On ne joue pas avec ça. Les signes, ça peut être vraiment quelque chose au niveau de votre relation avec Dieu qui est important, qui vous est personnel. Donc, n'hésitez pas à le demander. On a tous besoin de ça de temps en temps. Et Dieu le sait. N'allez pas croire que, oh ouais, mais Dieu, il est là-haut, il ne comprend pas, il ne voit pas, il a d'autres choses à faire. Ça, c'est n'importe quoi. Dieu comprend, Dieu sait, il sait que vous en avez besoin, il vous le donnera. S'il sait que vous êtes prêt à y aller à fond, il vous le donnera. Alors, le peuple, là, il avait oublié le passé glorieux de ses ancêtres, il a besoin d'un signe, Dieu va lui en donner. Aujourd'hui, c'est à chacun qu'il faut une expérience, parce que Dieu connaît notre fragilité humaine qui nous pousse au doute. Et les expériences de nos parents, de nos grands-parents, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va faire ce qu'Élie a dit. Et bien sûr, avec Baal, il ne se passe rien. Rien du tout. Rien du tout, c'est normal, puisque Baal, c'est le vide, c'est l'inanité, c'est le néant. Il n'existe pas. Il n'existe que dans la tête des gens, comme l'idolâtrie. Ça existe dans la tête des gens. Hein? L'argent ne fait pas le bonheur. Etc. Alors, Élie, là, quand je vous dis qu'il y a de l'humour dans la Bible, on ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il dit, votre Dieu, il pense à autre chose, mais criez plus fort. Il est occupé, il est en voyage, il dort, il va se réveiller. Alors franchement, il n'a rien inventé, Élie. Hein? Nous, on le pense comme uniquement de la moquerie, mais non. Quand on regarde la mythologie de l'époque, de Baal, entre autres, il part en voyage et on attend qu'il revienne pour lui faire des offrandes, etc. Enfin, il y a toute une mythologie parce que dans la mythologie, l'homme fait Dieu à son image. Alors que dans la Bible, c'est Dieu qui fait l'homme à son image. Et dans la mythologie, c'est l'homme qui fait Dieu à son image. Donc, bah, il est occupé, il est en voyage, il dort. Il y en a même qui supposent que quand il dit qu'il est occupé, ça pourrait vouloir dire qu'il est aux toilettes. Il était vraiment dans la rigolade là. Je pense. Mais bon, il faisait en fonction de la mythologie de l'époque. Et bah, il crie tellement qu'il se font des incisions. Et puis le sang coule. Et normalement, ça crée un état second, un état, voilà, d'extase. Et puis là, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Nos idoles ne peuvent rien pour nous. Notre argent, alors que ce soit le sport, que ce soit tout ce qu'on peut avoir comme idole qui passe avant Dieu, ils ne peuvent rien pour nous. Momentanément, oui, on fait des fêtes, on danse, c'était ça hein, l'intérêt du culte à Baal. On fait du commerce, mais on ne peut rien, on ne peut pas se manifester. Et Élie, du coup, va se rapprocher du peuple, je vais un petit peu plus vite pour terminer. Il leur dit d'abord, approchez-vous de moi. La première chose qu'il fait, il restaure l'autel qui avait été rasé. Et il prend 12 pierres. Il prend 12 pierres parce que ça représente, bien sûr, vous avez deviné, les 12 tribus. Et c'est important parce qu'il montre que le peuple est composé de 12 tribus et pas de 10. Il est en Israël, ils viennent de se séparer. Il y en a 2 au sud et 10 en haut, au nord. Mais lui, il prend les 12 pierres parce qu'il s'adresse à l'ensemble du peuple. Oh, il n'y a pas qu'Israël qui est idolâtre. Judas en a son compte. Il prend 12 pierres. Il revient donc à la création du peuple. Il fait un fossé tout autour. Il met le bois, le taureau découpé. Il le met sur le bois. Et puis alors lui, il va plus loin. Vous voyez, ce n'est pas un signe à la gomme qu'il demande. C'est 3 fois 4 cruches d'eau. Là aussi, ça m'a semblé un peu, hein. Bon, ça fait 12. Sur le taureau, sur le bois qui remplit le fossé. Il fait tout pour que ça ne s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'il veut être sûr que ce sera la gloire de Dieu. Et combien de fois Dieu va utiliser des chrétiens? Et franchement, on les regarde et on se dit, bah dis donc, Dieu, il fait tout pour que ça ne marche pas. Hein? fait tout pour que ça ne marche pas. Il utilise un tel ou une telle. Ah, il fait vraiment tout pour que ça ne marche pas. Et oui, et pourtant, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Si vous lisez les autobiographies d'hommes de Dieu qui ont marqué les générations passées, c'est souvent des gens où nous, on aurait tous pensé. Et pourtant, il y a de l'eau, il n'y a aucun espoir de tricherie. Il y a eu des tricheries. Hein. J'ai lu que dans l'archéologie, on a découvert des pierres avec des trous qui menaient à des tuyaux où ils envoyaient du feu et de la fumée en dessous de l'autel. Mais là, lui, il fait tout pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Hein. Il met de l'eau. Et puis, allumer un feu trempé, c'est naturellement impossible. Comme ça, il est sûr que s'il y a du feu, ce sera surnaturel. Et pourquoi Dieu utilise souvent des gens incompétents, des gens qui ont... Dieu leur donne après les compétences, mais... ou des gens qui ont échoué, des gens qui ont souffert, des gens qui ont été brisés, des gens qui ont été cassés. Parce que cela, on est sûr que s'il se passe quelque chose, ce sera surnaturel. Hein ? Il y a eu de l'eau sur eux. Et vous savez, moi j'ai déjà essayé, parfois je suis impatiente, et puis bon, on n'a pas eu le temps de couper du bois, et donc je prends du bois dans la forêt, il est un peu humide, mais c'est pas grave, allez hop. Pour allumer là, c'est chaud, hein, même si j'ai beaucoup de carton, beaucoup de papier. Allumer du bois mouillé, c'est l'horreur. Ça fume, ça sent mauvais. Donc il a tout fait, il n'y a qu'un Dieu vivant et puissant qui pouvait renverser les impossibilités. Et il y a souvent dans notre vie des choses comme ça, hein. On se dit, mais il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. On se sent coincé, il n'y a aucun espoir, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Eh bien, il y en a en haut. Il y en a vers le haut. Et Dieu peut agir. Et là, c'est surnaturel. On peut croire qu'une situation est perdue parce qu'on est tout seul. C'est le cas d'Élie. Sans soutien, face à 450 prophètes, c'était beaucoup. Puis Akab qui... Face à des circonstances difficiles, que ce soit à l'école, au travail ou ailleurs. En plus, un événement catastrophique vient tout inonder. Comme Joseph. Rappelez-vous Joseph, il a été bien inondé, lui, hein ? Il y en a eu de l'eau sur sa vie, hein ? Vendu, trahi, accusé à tort, emprisonné, oublié par celui qui l'avait aidé. Ça n'a pas empêché Dieu d'exécuter ses plans surnaturellement. Il est devenu premier ministre d'Égypte, il fallait le faire. Quand Dieu veut quelque chose, pas besoin de s'inquiéter. La gloire de Dieu se révèle dans ce genre de circonstances, parce que personne d'autre que Dieu ne pouvait mettre le feu à cet autel. Élie voulait la gloire de Dieu, pour que le peuple revienne à Dieu. Ce n'était pas une question de spectacle. Et là, franchement, attention, on ne cherche pas les miracles pour du spectacle, on ne cherche pas la gloire de Dieu pour du spectacle, on ne cherche pas ça, on cherche que le peuple revienne à Dieu. Et si vous voulez vous engager avec Dieu, vous lui demandez un signe, c'est pour revenir vers Dieu. Alors on parle de repentance, c'est un mot qui est peut-être mal coté. La vraie repentance, c'est « je reviens vers Dieu ». Je reviens en demandant pardon, évidemment, parce que bon, mais je reviens vers Dieu. La repentance, c'est ça, je reviens vers Dieu. Je quitte mes idoles, les priorités, ce ne sera pas celle d'hier, c'est des nouvelles priorités. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, il précise, il précise parce que c'était rituel. Tous les soirs, il y avait la présentation d'une offrande à Dieu. Et c'est, il a choisi son moment, Élie. Il a choisi son moment. Et puis lui, il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de cri. Il veut simplement qu'on sache. Et là, je reprends ce qu'il a dit. C'est toi qui es Dieu en Israël. Dans notre vie, c'est pareil. Pouvoir dire, c'est toi qui es Dieu dans ma vie. Que je suis ton serviteur. C'est-à-dire, Seigneur, que moi, je veux te servir. C'est par ta parole que j'ai fait cela. C'est sur tes ordres. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas imaginé quelque chose. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Et la conclusion, que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Voyez, tout est centré sur Dieu. J'ai beaucoup aimé la louange dimanche dernier parce que tout était centré sur le sacrifice de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est important. Le signe miraculeux n'est pas là pour faire du spectacle, ni pour damer le pion aux autres, entre parenthèses. Son but, ce n'était pas de dire « Vous avez vu les prophètes de Baal ?» Ha, ha, ha. Non, il voulait que le peuple revienne à Dieu et supprime les idolâtres. Et les criminels, après tout, c'est les infanticides. Le but, c'est de redonner sa place à Dieu, pour le peuple d'Israël, pour le cœur des gens, montrer la puissance de sa parole et pas la parole d'Élie, et que tous voient qu'Élie est au service de Dieu et que ce n'est pas sa parole qui change les choses. Élie demande le feu parce que c'est irréfutable, c'est précis, c'est instantané, c'est un signe qui est convaincant. La pluie aurait été plus discutable. Oh oui, mais il y a une petite dépression, puis il y a un nuage, et puis c'est... le feu, il n'y avait pas d'erreur. Précis, il vient d'en haut, facile à constater. Évidemment, après, il reste la sentence, le châtiment, la mort pour les faux prophètes. Évidemment, nous, ça nous choque, mais mettons à mort nos idolâtries déjà. C'est déjà difficile. Alors, Jérémie 25, on va terminer par là. « Ils se sont éloignés de moi, dit l'Éternel, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent. Toutes nos idoles, à terme, ne seront que du vent. » Regardez les gens qui ont comme idole, alors là j'aime bien les films de Disney qui vous montrent les Picsou et compagnie, là. C'est que du vent. Ils montrent bien la vanité, ça ne résout pas les problèmes, l'argent ne fait pas tout. C'est du vent. Ils se sont éloignés de moi, dit l'Éternel, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et n'être eux-mêmes que du vent. Le problème, c'est que plus on va idolâtrer ces dieux qui sont que du vent, nos priorités, nos souhaits, tout. C'est nous qui devenons du vent aussi. Non seulement on adore du vent, mais on devient du vent. Et quelque part, on devient ce qu'on adore. Attention. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Tout ce que l'on fait passer avant Dieu, dans notre cœur, nous rend idolâtres. Que ce soit le culte du moi, du travail, du succès. Donc, ils se sont éloignés de moi et ils ne sont eux-mêmes que du vent. Voilà, le Seigneur nous aide parce qu'on est humain, puis on a cette tendance toujours de vouloir, oui Seigneur, je veux bien de toi, mais je veux aussi mettre ça et ça et ça et ça en priorité dans ma vie. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Seigneur, aide-moi, aide-nous à être entier avec toi, à ne pas avoir un cœur partagé entre t'adorer et puis mettre en priorité des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Aie pitié de nous, Seigneur, et merci, parce que si tu as donné Jésus, c'est parce que tu avais pitié de nous, parce que tu nous as tendu la main, et on veut saisir ta main, et aide-nous tous à choisir qui on veut servir, et à aller à fond avec toi, Seigneur, quel que soit notre âge et nos talents. Amen.